Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
La culture du manioc est très répandue en République démocratique du Congo. Cette plante sert d'aliment des bases dans la plupart des familles congolaises, le manioc. Mais sa culture nécessite également certaines techniques appropriées pour faire des bonnes récoltes et prévenir les maladies qui attaquent les champs de manioc, surtout la mosaïque, qui fait beaucoup de dégâts, surtout dans la province du Katanga, là-bas particulièrement. Alors, quelles sont les techniques d'entretien de culture d'avant et d'entretien du champ, d'un champ de manioc? L'ingénieur Tata Angui Willy, expert en production agricole, est notre invité du jour. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, première question, pouvez-vous d'abord nous présenter le manioc?
Bon, le manioc, c'est une culture qui est très populaire en République démocratique du Congo et presque partout en Afrique subsaharienne.
Il semble qu'au Nigeria, c'est très développé, la culture.
Scientifiquement, c'est là où c'est plus avancé. Ouais, mais la culture est plus importante en RDC que partout ailleurs en Afrique, du point de vue consommation, du point de vue économie et ménagère, quoi, rurale.
Alors, quelles sont les techniques pour bien cultiver le manioc?
En fait, comme pour toute autre culture, faut d'abord bien préparer, d'abord bien choisir le terrain là où vous allez le planter. Il faut que le terrain soit convenable à accepter la culture. Donc, pas très à pente, pas très rocailleux, pas très marécageux. Et il faut un terrain sur lequel la culture peut avoir suffisamment de subsistance pour sa croissance.
Alors, il faut quel type de sol pour le manioc?
Le manioc, c'est un sol meuble. C'est-à-dire un peu argile, un peu sable, mais qui doit avoir aussi nécessairement de l'humus. Il ne faut pas mettre en tête que comme c'est une culture qui est rustique, c'est-à-dire qu'elle peut supporter même les sols pauvres, à cause de ça qu'il faut le mettre dans un terrain marginal. C'est beau aussi pour sa bonne productivité, la mettre aussi dans un terrain convenable pour qu'elle vous donne ce que vous attendez d'elle.
Un sol meuble, donc un peu de sable.
Un peu de sable, un peu d'argile. Ouais, pas trop sableux parce que le sable garde plus la chaleur. Pas très argileux, l'argile, quand il pleut, il vous colle. Et puis c'est difficile pour que la racine pénètre. Donc il faut être entre les deux. Et aussi suffisamment d'humus.
Et donc, comment identifier ces sols-là dont vous parlez, ces sols meubles?
Facile, vous prenez une motte de terre, vous l'écrasez dans la main, et quand vous ouvrez la main, le sol ne reste pas très collé. Elle se dégage pour respirer un peu.
Ouais. Ah, c'est la technique simple pour reconnaître.
Très simple.
Vous prenez une motte, vous écrasez, vous...
Une motte un peu humide là, vous écrasez. Quand vous ouvrez la main, le sol s'éparpille sur votre main.
Ça ne colle pas, quoi, la main.
Ça ne doit pas coller. Si ça colle, c'est que c'est argileux.
Bien. Ouais. Alors, dès qu'on a retrouvé, on a trouvé un bon terrain, maintenant, comment préparer ces sols-là pour... recevoir le manioc.
Vous avez un terrain meuble, il faut maintenant l'ameublir davantage, c'est-à-dire que le nettoyer, enlever les mauvaises herbes. Et si vous n'avez pas d'amantement, vous pouvez enfouir ces mauvaises herbes sous le sol pour qu'elles pourrissent là-bas et donner des matières nutritives à la plante qui va commencer à croître. Et après avoir préparé le sol, vous pouvez faire des bio, comme vous pouvez faire des buttes. À culture à grande échelle, ce n'est pas nécessaire de faire des bio, vous pouvez juste élaborer à plat ce qu'il faut, la mécanisation agricole, ce qu'il faut utiliser les tracteurs, les machines agricoles. C'est juste labourer à plat et vous plantez votre manioc.
Et c'est quoi le bio, les buts, hein? C'est quoi?
Le bio, c'est ça de relever un tout petit peu le sol, mais à très grande distance. C'est-à-dire qu'un bio peut avoir même 10 mètres, 20 mètres. Pendant que but, vous relevez le sol, mais juste là au pied où vous allez mettre la plante.
C'est ça la différence. Voilà. Et après avoir préparé le sol, vous avez préparé les billons ou les buttes. Et maintenant, l'étape qui suit, c'est la...
C'est la préparation du matériel de plantation.
C'est pas le semis directement?
Vous devez préparer ça avant de semer.
Avant de semer.
Comme pour toutes les plantes qui font la production végétative, on parle de la plantation, pas les semis. Donc, c'est-à-dire que vous allez préparer les boutures.
Ok.
Et ces boutures-là doivent vous provenir des plants que vous connaissez que c'est sain. C'est-à-dire, n'ont pas été affectés par des maladies.
Ah, ça c'est important, surtout très avec important. La mosaïque.
Il faut savoir choisir ça. Sa semence. Il faut savoir choisir la bouture qui va faire le choix que vous voulez faire.
Il faut choisir des boutures saines.
Les boutures saines.
Mais où trouver et comment reconnaître les boutures saines?
Effectivement, c'est là où pose problème. Il faut d'abord savoir identifier les maladies. Et quand vous identifiez les maladies, vous pouvez prendre dans votre propre champ les boutures et vous choisissez celles-là qui n'ont pas de symptômes de maladie. Si vous n'êtes pas sûr de la source de votre matériel, même de votre champ, si vous doutez, vous allez chez les agrimultiplicateurs qui sont déjà avisés et qui sont devenus des professionnels à la production de la semence bouture. Donc, pour le manioc, il y a des agrimultiplicateurs déjà bien formés qui reconnaissent qui savent suivre leur champ au cours de la croissance pour la production de la semence et qui vendent aux producteurs qui veulent avoir la semence, la bonne semence. Parce qu'il y a aussi la variété. Si vous voulez...
Il y a des variétés résistantes aux maladies.
Aux maladies, effectivement.
D'autres qui ne résistent pas.
Ouais. Et ça peut être aussi résistante, mais ça ne produit rien. Donc, il faut connaître la variété.
Elle doit être résistante et productive.
Et productive. Voilà. Et rendement élevé.
Alors, quel type de variété, par exemple, quel est le type de variété qui produit et qui résiste?
Ok, la recherche a déjà mis au point plusieurs variétés de manioc qui résistent et qui produisent mieux. Et qui peuvent même répondre à certaines de vos aspirations. Par exemple, si vous voulez faire la chikwang, il y a des variétés qui sont vraiment mieux appropriées. Toutes les variétés peuvent vous donner la chikwang, mais il y a celles-là qui sont mieux. Donc, la recherche a déjà catégorisé ces genres de variétés.
Des variétés de manioc.
Ouais. Si vous passez à l'Imera...
Lesquelles, il y en a combien? Je sais qu'il y en a plusieurs.
Une dizaine qui sont résistantes et productives.
Lesquelles, par exemple, vous pouvez citer quelques-unes?
Par exemple, pour les basses altitudes, dans le coin du Bas-Congo, de Kinshasa, on peut vous parler de la variété Ntiansi.
Ntiansi.
Ntiansi, N-S-A-N-S-I, Ntiansi. On peut vous parler de la variété Dinsanka. On peut vous parler de la variété Zizila, de la variété Obama. Ce sont des variétés qui sont un peu plus populaires. Là, même la variété Rave, qui est tout au long de la route, si vous trouverez tout au long de la route, quand vous allez au Bas-Congo, jusqu'à Mbazangu, vers Kimpese, elle domine vraiment la culture là-bas. En altitude, comme dans les Bukavu et le Nord Kivu là-bas, vous rencontrerez des variétés comme les Sawa-Sawa, la Liaï, la Mayombe. Ce sont des bonnes variétés qui ont accepté l'écologie et, disons, le climat de ce côté-là.
Alors, donc, si vous utilisez ces variétés, là, vous pouvez être sûr d'avoir une bonne production et que votre champ ne sera pas attaqué par la mosaïque d'autres maladies.
Par la mosaïque, non. Vous pouvez avoir des maladies sporadiques, mais ça ne peut pas vraiment les attaquer au niveau des pertes économiques.
Bien, quelles sont les techniques de culture et d'entretien d'un champ de manioc? Les questions, les préoccupations, appelez-nous au 081 890 63 94.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Quelles sont les techniques de culture et d'entretien d'un champ de manioc? Théodore Mbouyamba, vous êtes un Mbujimayi au Kasai oriental et Jean Dambosch nous appelle de Lubumbashi au Katanga. Théodore, bonjour.
Bonjour, mon ami.
On vous écoute.
J'ai mes deux questions à poser à notre invité, mais avant de poser cela, je disais que ici chez nous, vous savez que nous avons le maïs comme aliment de base, mais à part ça, le manioc est très nécessaire pour le mélange. C'est ainsi que je pose la question en disant, est-ce qu'on peut cultiver le manioc dans un champ de 2 hectares, par exemple, mélangé avec les haricots? Et quelle distance à respecter? Deuxième question, quels sont les insectes qui rongent les maniocs et quelle prévention à prendre pour une bonne réussite selon leurs espèces? Merci.
Merci Théodore Mbouyamba de Mbujimayi. Jean Dambosch, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Merci, bonjour à vous Jody, bonjour à l'invité, et aussi bonjour à tous les auditeurs fidèles de Radio Okapi. J'ai quelques questions à poser à l'invité. Je voulais tout d'abord me rassurer. Lorsqu'on veut cultiver les maniocs, le tige même du manioc doit avoir combien de centimètres? Pourquoi est-ce que la longueur même du tige, est-ce qu'elle est exigible? Si oui, pourquoi? Merci à vous.
Bien. Jérémy Mido de Bandundouville, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Bon, souvent, nous constatons quand on plante les arachides, on plante aussi les maniocs dedans. Je ne sais pas, ça doit faire les mauvais contacts ou quoi. Mais la deuxième type de question, donc quel type de plantes de manioc qu'on peut planter telles qu'ici à Bandundubi au Congo? Parce que nous avons beaucoup de variétés. Quelles sont les variétés qu'on peut planter ici et produire beaucoup de manioc? C'est ça.
Merci, Jérémy Mido. Ingénieur Willy, vous avez la parole. La première question de Théodore Mbujimayi, est-ce qu'on peut faire l'association du maïs avec les haricots? Il y a Jérémy qui a parlé aussi de l'association manioc et arachide.
Bien sûr. Le manioc, la culture du manioc s'accommode bien à l'association culturelle. On peut même dire aux associations culturelles. Mm-hmm. Pourvu que vous faites une bonne répartition de votre terrain. C'est-à-dire, d'abord pour le manioc, il faut le planter aux écartements de 1 x 1, hein, qui vous donnera 10 000 pieds à l'hectare.
Donc l'écartement, la distance entre les boutures.
Oui. Entre les lignes de plantation, 1 mètre, et dans les lignes, 1 mètre. C'est vraiment écarté de 1 x 1. Mmh. Et si vous avez respecté cette densité, vous pouvez maintenant intercaler le reste des cultures que vous voulez amener. Mais il ne faut pas que ça soit un nombre très élevé. Par exemple, pour le maïs, comme notre ami de Mbujimayi dit que le maïs est très consommé, ça peut aller ensemble parce que ça se mélange aussi au manioc. Si vous avez planté votre manioc aux écartements d'un 1 x 1, vous pouvez intercaler effectivement votre maïs au milieu, c'est-à-dire à 50 cm des plants, vous mettez aussi épier de maïs qui va aussi aller vers un autre épier de maïs à 1 mètre.
Ça peut être le maïs, les haricots ou les arachides.
Ça, c'est le maïs, parce que le maïs monte à hauteur, et il occupe ce qu'on appelle son air d'alimentation assez large par rapport aux haricots.
Okay.
Pour les haricots, par exemple, l'autre légumineuse, telle que le niébé, vous pouvez, entre les deux maniocs qui sont aux écartements de 1 x 1, vous mettez maintenant, de part et d'autre du pied du manioc, vous allez vers 40 cm, et à partir de ces 40 cm-là, vous mettez vos deux pieds, alors il faut maintenant deux pieds de la plante de légumineuse. À ce moment-là, il n'y a pas de concurrence.
Donc, il faut bien respecter ces distances-là.
Si vous respectez les écartements, donc vous gagnez en espace et à culture. Et dans le temps aussi, parce que vous aurez deux productions qui seront sur un même terrain. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est maintenant, si vous avez bien planté à ligne, ça va, mais ça complique aussi le sarclage. Donc, vous avez des petits espaces où passer pour faire votre sarclage.
Bien, on y revient. Il est temps d'accueillir Papi Kamanda qui nous appelle de Kasséni, en province orientale. Papi Kamanda, bonjour.
Bonjour à vous.
On vous écoute.
Oui, j'ai une préoccupation.
Laquelle?
Combien de temps on peut laisser les champs se reposer pour semer les boutures de manioc?
Merci pour la question, papy. Combien de temps laisser les champs se reposer? On peut laisser les champs se reposer avant une autre culture. On vous écoute. Il y a Théodore, donc vous étiez en train de parler d'abord
des écartements pour l'association.
Pour l'association, oui.
Ouais. Vous avez un avantage que vous produisez un peu plus sur un même terrain. Donc vous avez et le maïs et le manioc ou et le maïs et le haricot sur le même terrain. C'est un avantage.
Est-ce qu'il n'y aura pas concurrence parce que ces deux plantes type attirent les ressources du sol? Est-ce qu'il n'y aura pas concurrence, l'autre qui aura beaucoup plus d'éléments par rapport à l'autre plante?
Bien sûr que quand vous avez ajouté quelque chose de plus pour arracher de la nourriture à une autre, c'est que vous aurez quand même un peu de...
Mais il y a... Là, il faut que le sol soit bien enrichi.
Effectivement, il faut ajouter un peu d'éléments nutritifs. Mmh. Oui, mais la concurrence peut ne pas être là. Par exemple, si vous avez associé le manioc, par exemple, aux arachides ou aux haricots, aux légumineuses, il y aura un plus. Les légumineuses vont amener un peu d'azote de plus.
Okay.
Et quand vous allez récolter les légumineuses qui ont fait 3-4 mois, le manioc va rester jusqu'à 12 mois. Et vous pouvez laisser les fans. Donc les fans, c'est que vous avez récolté vos arachides, vous n'amenez pas toutes les feuilles d'arachide, vous les laissez là pourrir là-bas. Mmh. Ça ajoute encore un peu quelque chose pour le manioc. Okay. Donc vous pouvez gagner.
Ok, ah, vous pouvez gagner.
Ça, c'est le respect, le choix de la culture à associer à votre manioc. Mmh.
À part l'association manioc-maïs, manioc-haricot, manioc-arachide, il y a d'autres types d'associations?
Bien sûr, mais ce sont des associations qui se font à des ordres et qui ne sont pas recommandées par la recherche.
Ok.
Par exemple, vous amenez la patate douce. Les besoins d'occupation spatiale, la patate douce reste sous terre. Le manioc reste sous terre. Il peut avoir concurrence d'espace pour l'accumulation de matière. Aussi, la patate douce, dans la plupart des cas, elle va un peu plus, elle reste un peu plus longtemps que les arachides ou le maïs. Mmh. Et à un certain moment, le manioc, quand il aura couvert, la patate douce va un peu souffrir.
Bien. Ah. Et à Théodore qui a dit, les insectes qui font souvent les dégâts dans les champs de manioc, lesquels?
Bon. Souvent, dans les champs de manioc, les gens ne font pas beaucoup attention aux insectes. Mais il y en a qui causent des dégâts importants. Le premier ravageur qu'on rencontre sur le manioc, c'était la cochenille. La cochenille du manioc, elle occupe la face inférieure de la feuille. Elle ici, c'est la sève. Et les dégâts vont vers la déformation de la surface foliaire. Ça, nous pouvons dire que la recherche a réussi à combattre cet insecte par la moyenne de la lutte biologique. Bien sûr que vous pouvez le rencontrer ailleurs. Mmh. Et si vous le trouvez, demandez à la recherche INERA, IITA, de vous informer comment vous fournir des ennemis naturels qui peuvent aller vous aider à contrôler cet insecte. Mmh. Il y a la carrière verte qui aussi bouffe derrière la feuille et qui lui enlève la chlorophylle qui permet la photosynthèse nécessaire à l'accumulation de nos tubercules qui sont des racines qui sont dans le sol. Mmh. Ouais. Et il y a aussi de nouveaux ravageurs qui ne sont pas encore connus comme les thrips qu'on rencontre sur le manioc. Il y a les lopeltis qui est souvent dans les savanes du sud, comme dans le sud du Bandundu, dans le Kwilu et le Kwango. Il y en a d'autres qui ne sont pas très nuisibles. Mais il y a celui qui est très populaire, c'est la mouche blanche.
Et très nuisible.
Très nuisible parce qu'il transmet la mosaïque, comme le moustique fait pour la malaria. Mmh. Et aussi, à bouffa, il cause cet dégât mécanique sur la plante.
La mouche blanche.
La mouche blanche, qu'on appelle Bémissia.
Bénitia. Mmh. Alors, Jérémy de Deban nous demande quelle variété utiliser pour eux et quelle est la variété très productive et résistante aux maladies qui peut être utilisé dans le banc de nous.
Nous avons cité les variétés de basse altitude, entre autres les Tansy, les Obama. Ils sont trop très populaires. Et il a dit qu'il est dans le banc de nos villes. Mmh. Mais les gens de Kikwit, ils ont déjà adopté beaucoup de nos variétés. Ouais, il y a des variétés comme les Tansy là qui résistent vraiment à la mosaïque, mmh. et qui sont très productives. Tansy, Obama. Zizila, ça nous pouvons conseiller, ça c'est pour les sols de Bandundu.
De Bandundu, oui. Ismaël Mompoy est à Lubumbashi et Junior Mabi à Bandunduville. Ismaël, bonjour. Ismaël Mompoy, bonjour.
Ismaël est bon parce que ça cache beaucoup.
On vous écoute, Ismaël. Quelle est votre question?
Ma question est de savoir la réchute aussi des manioc. Juste parce que nous avons la terre sablonneuse et la terre. Combien de temps on peut, combien de fois on peut utiliser pour réussir à ce qu'ils utilisent des engrais par rapport à la terre sablonneuse? Souvent qu'on fait après 6 mois, on sème, on entend 6 mois aussi pour raconter. C'est peut-être les conditions favorables parmi les deux situations dont je viens d'énumérer.
Bien, merci. Junior Mabi de Bandunduville, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, ma votre question.
Mmh. Bonjour. Oui, quel est le sol préférable pour semer les boutures de manioc? Quel est le sol préférable?
Le sol préférable. Bien. Ingénieur, vous avez la parole, ingénieur Willy.
Bon, si nous allons vers notre auditeur de Lubumbashi, qui parle de sol sableux, sol argileux, oui, tous les sols acceptent le manioc, mais la production du manioc se fait très bien sur le sol sableux argileux. C'est-à-dire que vous avez les deux. Et ce sol-là est meuble, ça permet à la culture du manioc de se développer sous sol. C'est-à-dire que les racines d'accumuler et de tubériser convenablement.
Voilà, et Papy Ismaël et Papy Kamanda, les Kassien, ils sont revenus sur la même question. Combien de temps laisser la terre en jachère?
Notre gars de Kassien voulait connaître la durée de la jachère. En fait, la durée de la jachère dépend de la végétation sur place. C'est-à-dire que c'est, si vous avez longtemps exploité votre terre et vous avez bien respecté la rotation, si vous avez respecté la rotation, la jachère ne dure pas longtemps. Mais le manioc donne mieux en savane. Hein, si vous êtes en savane et vous donnez à votre terre un repos de 2 ans, c'est amplement suffisant si vous n'avez pas brûlé. Vous avez laissé la végétation y développer.
Après deux ans.
Mais si vous n'avez pas suffisamment de terre, vous pouvez y aller avec les rotations. C'est-à-dire après le manioc. Après le manioc, vous mettez arachide, maïs, d'autres cultures qui n'ont pas les mêmes exigences nutritives, en éléments nutritifs comme le manioc. Après cette rotation, vous pouvez faire un petit repos de 6 mois et le sol va se rétablir,
se reconstituer
et vous pouvez encore planter le manioc.
Bien. Nathanaël Chibaka est à Kisangani. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Nathan?
Je voudrais savoir si les caca peuvent constituer de l'engrais.
Les matières fécales, est-ce qu'on peut les utiliser comme engrais chimique? Bien, merci, Nathan. Monsieur Willy.
Ça serait très étonnant que quelqu'un s'amuse à utiliser les déchets de
les matières fécales.
Matières fécales. Oui, matières fécales, oui, des vaches, donc la bouse des vaches, matières fécales des chèvres. Ça. C'est même recommandé parce que ça nous aide à remettre.
À reconstituer le sol.
Oui, à remettre certains éléments du sol. La chèvre, la vache broutent les éléments que la plante tire du sol. Et ces éléments-là, la vache les avale et on peut les ramener vers le sol. Mais la nouvelle matière fécale, là, avec beaucoup de On va parler des Thomson ou autres.
Mais on mange aussi les légumes, non?
Je pense pas que ça soit vraiment intéressant. C'est mieux, c'est facile d'ailleurs d'avoir des poules à la maison, d'avoir des petites chèvres, et ça va vous donner des grandes quantités si vous voulez vraiment utiliser des matières organiques, telles que les caca, aller vers les caca des vaches, les caca des chèvres, pas les caca humains. Je ne conseillerais pas.
Oui. Bien, il y a Jean d'Amboche qui dit quelle doit être la longueur
de
la bouture. Est-ce que la longueur d'une bouture a aussi une incidence sur la production?
Ouais, nous conseillons la bouture de 25 cm. C'est plus économique. Si vous avez même les tiges qui ont des entraîneurs courts, comptez si votre bouture a au moins 6 nœuds. Et 6 nœuds, le nœud de la planche là, ou le bourgeon, ou à partir d'où la bouture va germer. Il faut en avoir au moins, donc en avoir 6.
Donc
au moins
25 cm.
Donc 25 cm, si c'est les entraîneurs sont courts, vous pouvez aller jusqu'à 20 cm. C'est économique et vous ne dépassez pas votre semence.
Voilà. Et une bouture, comment on vend? On vend par pièce ou c'est par groupe?
Non, on va par mètre.
Par mètre.
Comme c'est une, on vend une tige d'un mètre. Et le prix est en fonction des milieux.
En fonction des milieux.
Ouais.
Alors, comment entretenir son champ? Déjà, on a planté les boutures, tout se passe bien. Maintenant, comment doit se faire l'entretien au quotidien?
L'entretien au quotidien, c'est le sarclage. Vous respectez le sarclage, vous aurez une bonne production.
Sarclage, c'est-à-dire?
Le sarclage, c'est enlever les mauvaises herbes. Les herbes indésirables, mon cher. Ils sont très concurrents. Les herbes sont plus exigeantes en éléments nutritifs que la plante que nous avons amenée. Les herbes sont habituées à cette place-là. Et ils sont les premiers à tirer la matière nutritive que la plante que vous avez amenée après. Alors, si vous les laissez là, elles vont profiter plus des matières nutritives du sol que la plante que vous avez amenée et que vous voulez qu'elle vous donne quelque chose. Alors, pour éviter cette concurrence, il faut passer à lever cette mauvaise herbe-là fréquemment.
Ok.
Fréquemment,
faut-il arroser ou bien
Oui, un champ de manioc, vous pouvez l'arroser à terme d'irrigation. Il y a des lieux où, par exemple, la saison n'a pas été bonne. Et si vous avez les moyens, vous pouvez irriguer.
Parce que vous savez, avec le changement climatique, il y a des perturbations, on n'a plus les pluies comme avant.
Effectivement. Ça peut arriver que vous plantez les pluies s'arrête et vous avez 3 mois qui viennent sans que votre manioc n'ait pas d'humidité. À ce moment-là, si vous avez le moyen, irriguez. Et si vous pouvez avoir la force, même la main-d'œuvre, vous pouvez arroser avec des arrosoirs. Et vous le faites 2 fois par semaine.
Et s'il faut irriguer, alors dans ce cas-là, il est préférable d'avoir un champ à côté d'un cours d'eau.
Exact. Si vous voulez faire un grand champ de production de manioc, vous voulez faire un champ, prenez aussi soin de ne pas être très loin des cours d'eau. Mais comme nous avons la chance d'avoir des pluies, en tout cas, nous avons la chance d'avoir des pluies chaque mois, c'est comme ça que nous ne tenons pas compte. Mais quand les perturbations vont être très marquées, quand les gens vont constater qu'il faut être très prudent, on prendra soin de voir si là où on fait son exploitation, il y a un cours d'eau à côté.
Voilà, donc dès qu'on fait, on fait bien l'entretien, on peut espérer la récolte après combien de temps?
Le manioc, c'est 12 mois.
12 mois?
C'est 12 mois. Il y a des variétés précoces que vous pouvez commencer à récolter à 10 mois. Mais nous conseillons à 12 mois. À ce moment-là, le potentiel de production...
Mais déjà, les feuilles de manioc, les fondus, on peut commencer à récolter après combien de temps?
Oui, à partir du 4e mois,
respecter
la fréquence de récolte. Il ne faut pas faire souffrir la plante, parce que ce sont les feuilles qui font la cuisine de la plante pour que les racines la tubérisent, pour que les dimensions des racines tubéreuses soient commerciales. commercialisable, quoi, oui. Acceptable par les consommateurs et par les transformateurs même.
Donc il ne faut pas couper les feuilles à tout moment.
Pas à tout moment, il faut respecter la fréquence de récolte. La recherche a vu qu'il n'y a pas, il n'y a pas de réduction dans le rendement si vous avez respecté la fréquence de 2 mois. Donc si vous avez coupé en février, sur la même plante, revenez peut-être en avril.
En avril, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, aux agriculteurs de Lualaba, dans les Katanga, qui font face à y a le problème de la mosaïque qui attaque les champs, qui détruit les champs de manioc dans les Katanga, Lualaba particulièrement. Mm. Qu'est-ce que ces agriculteurs peuvent faire pour lutter contre cette maladie?
En fait, la mosaïque est une maladie endémique, bien que c'est devenu une pandémie, c'est-à-dire qu'elle vit maintenant dans la plante, elle vit avec la plante. Mmh. Alors, le premier conseil, c'est leur demander d'abord d'acquérir des variétés résistantes qui sont disponibles au Katanga. Vous avez la variété. Deuxième chose, bien choisir votre terrain où vous allez planter votre manioc. Troisième chose, respecter, comme vous l'avez dit là, les sarclages. Respecter les fréquences de récolte de feuilles.
Mais le problème, c'est que vous parlez des variétés résistantes. Mais ces variétés sont-elles disponibles partout? Est-ce qu'on peut les avoir
maintenant,
facilement?
Maintenant, les variétés résistantes à la mosaïque sont disponibles. C'est peut-être l'accessibilité, disons l'accès. Accessibilité, l'accès à ces variétés qui est un peu compliqué.
Qui pose problème dans certaines localités.
Dans certaines localités.
Oui.
Les gens n'ont pas l'habitude d'acheter une bouture. Celui qui vient peut-être leur fournir les boutures résistantes leur demande de payer peut-être $1 pour un paquet de 50 ou un paquet de 20. Et comme dans la mentalité, on sait que la bouture doit s'acquérir gratuitement, ça devient un problème.
Un problème.
Ou bien même si on a. On en a les moyens. Mais peut-être la distance là où on peut aller la prendre. Et pour faire un chat, il faut vraiment des fagots. Ce sont des petits problèmes, des contraintes d'acquérir le boutir.
Mmh.
Ouais, ce sont les problèmes. Si dans les coins encore un peu plus reculés, où il n'y a pas de marché, il n'a même pas l'argent pour s'acheter. Même si vous lui donnez ça gratuitement, à un certain moment, il peut ne pas respecter l'état de récolte. Il récolte à saison sèche. Et à saison sèche, il ne peut pas les planter. Et ces boutures-là ne se conservent pas. À moins que vous ayez une technologie pour les conserver pendant au moins 2 mois, en attendant la saison pluvieuse. Donc, les gens savent que je peux consommer mon manioc n'importe quand. Mais ils ne savent pas qu'il aura toujours besoin, si ce sont des variétés rares, de la même bouture pour l'utiliser pour la plantation suivante.
Mmh.
Et quand il récolte n'importe quand, il n'a pas respecté l'époque. Et il récolte tout. Il ne se garde même pas une petite quantité pour la plantation suivante.
Mmh.
Ça pose problème.
Ça pose problème.
Il va perdre sa bouture.
Ok. Ingénieur Tata Angiwili, expert en production agricole, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. Je vous apprends.